santé, l'EHPAD de l'hôpital est toujours en travaux depuis maintenant 2017. Et moi, fréquentant cet EHPAD, il y a vraiment un problème d'étayage parce que le seul moyen où on peut faire une petite promenade qui donne du côté donc derrière, du côté de la chapelle, il y a toujours ces étayages. Et du coup, c'est pas engageant. Hein, déjà, c'est un peu compliqué. Donc évidemment, on voulait connaître un peu, savoir ce qu'il en était, savoir quand est-ce que c'est fini. Parce que c'est quand même pénible à vivre pour les résidents. Merci.
Alors, Madame la conseillère municipale, cela me permet de préciser que dans le projet du nouvel hôpital, l'EHPAD est bien conservé sur le lieu, en lieu et place de là où il se trouve, puisqu'il est en centre-ville et que c'est important de pouvoir laisser nos résidents proches de ce centre-ville. Donc, mon prédécesseur a en effet été amené à prendre un arrêté de sauvegarde le 18 septembre 2019, à la suite de désordres structurels constatés sur l'immeuble de l'EHPAD des Patios d'Angennes, situé donc 38 rue Ferdinand Dreyfus. Des travaux de sécurisation et d'étayage ont ensuite été mis en œuvre afin de sécuriser le bâtiment. La direction d'hôpital m'a informé que le projet de rénovation qui avait pris du retard du fait de la période Covid avance. La procédure d'appel d'offres est en cours. Elle devrait permettre un début des travaux en septembre 2023. Il devrait durer environ 11 mois et être réalisé en site occupé. Cela signifie que les résidents pourront rester dans leur logement tout au long des travaux, ce qui est médicalement préconisé. Des dispositions seront naturellement prises avec le corps médical pour limiter les nuisances. Et les résidents seront tenus informés de manière permanente de l'évolution de ce dossier par l'hôpital. Voilà.
En même temps, j'ai une question un peu annexe. Le centre antidouleur va rester aussi, ou qui n'est pas très loin de la chapelle, mais qui est un peu indépendant de l'hôpital, parce que vous parliez du déplacement de l'hôpital.
Non, ça fait partie des services.
Ça fait partie, donc il n'y aurait que l'EHPAD qui resterait. Ok, oui. Merci.
La question suivante.
On avait donc une question sur la vente, sur la vente du Smart City. Donc vous nous avez répondu. Mais dans ce cas-là, est-il exact que les associations et les entreprises ont une clause d'usufruit de 30 mois à partir de 2023? Et dans ce cas-là, quel sera le programme d'hébergement futur pour ce tissu industriel et associatif?
Alors, monsieur le conseiller municipal, en effet, quand vous me posez la question sur l'éventualité d'un programme d'hébergement des associations actuellement accueillies à Smart City, comme vous le savez, la ville mène une politique d'accompagnement du tissu associatif active depuis plusieurs décennies par l'octroi de subventions ou par la mise à disposition de locaux lorsque cela est possible. Si nous contrôlons naturellement l'utilisation des subventions versées, nous sommes attentifs néanmoins de respecter la liberté de gestion de chaque association. Ainsi, à l'exception de la SMR, dans tous les cas précités, c'est-à-dire toutes les associations que vous aviez indiquées, parce que c'est vrai qu'il y a, dans votre question, vous aviez parlé de l'usine à chapeaux, etc., la location des locaux s'est faite sans intervention directe de la ville. À ma connaissance, les associations bénéficiant de locaux au sein de Smart City ont contracté des baux précaires dans la perspective de la vente du site déjà prévu. Parce que, je le rappelle, de toute façon, avant même que l'EPFIF se rende acquéreur, le site était déjà en vente. Donc, quoi qu'il arrive, les associations ou les sociétés qui sont hébergées auraient dû déménager. Donc nous restons bien évidemment, par l'intermédiaire de ma collègue, Leïla Youssef, en lien et à disposition des associations pour les accompagner dans la mesure du possible, dans la recherche d'équité, puisque le tissu associatif de Rambouillet, comme vous le savez, dépasse les 300 associations et que nous n'avons pas des locaux pour chacune d'entre elles. Donc voilà, nous étudierons au fur et à mesure. Voilà, monsieur.
Ne pourrait-il pas y avoir un global, parce que c'est quand même de nombreuses associations qui effectivement, occupent une position importante par rapport aux habitants. Et donc une réflexion globale pour effectivement trouver un endroit, un lieu, enfin une solution pour toutes ces entreprises et associations.
Alors, on peut toujours, Monsieur Poulet.
Oui, mais...
Oui, on peut toujours, Monsieur Poulet. Mais en effet, ça signifie des constructions. Et je rappelle juste qu'il ne me paraît pas judicieux de créer un énorme pôle associatif dans lequel toutes les associations seraient hébergées et qu'on ne sait jamais les risques que nous pouvons avoir et que l'on se retrouve une fois de plus avec toutes les associations à reloger. Je pense à travers cela, par exemple, à l'expérience que nous avons connue avec le Nickel, pour lequel, lorsque le Nickel a été fragilisé et pour lequel nous avons dû prendre un arrêté de péril, il a fallu relocaliser de façon urgente toutes les associations. Donc oui, ça se fera, et ça se fera au fil de l'eau, mais encore une fois, je le rappelle, 300 associations sur une ville comme la nôtre, il est illusoire de penser que nous pouvons accueillir chacune de ces associations dans un local déterminé. Et nous travaillons aussi avec Leïla Youssef à la mutualisation, mais je peux vous dire que côté associatif, lorsqu'on parle de mutualisation, nous sommes encore loin d'avoir des approbations.
Merci. Oui, je voulais préciser que, effectivement, à part la SMR, nous ne devons pas intervenir pour toutes les associations, sachant que la SMR, c'est quand même assez difficile aussi de la loger, puisqu'il y a des contraintes particulières et seul Smart City à un moment...
Pourriez-vous préciser ce que c'est que la SMR?
Ah, excusez-moi, la Société musicale de Rambouillet, c'est notre harmonie qui intervient beaucoup dans nos festivités et qui participe énormément aux animations de la ville, donc c'est très important pour nous, d'autant plus que c'est une ancienne association. Voilà, donc par contre, c'est quand même assez difficile de la reloger. On espère que le projet Louvière va pouvoir avancer pour eux. Par contre... Concernant pas mal d'associations, on leur propose déjà de se mutualiser, puisqu'en fait, s'il y a 5 associations de photographie, il y a un moment, on ne peut pas toutes les loger. On leur propose de mutualiser, donc on continuera à le faire. Il y a également des associations qui se sont installées à Smart City, tout simplement parce qu'ils ont des salariés, ils ont une activité qui leur rapporte de l'argent, donc on ne va pas forcément, en fonction de leur budget annuel, prendre en charge leurs dépenses.
Voilà. Question suivante.
Alors, si le projet immobilier de la Giroderie, 250 ou 260 logements, se réalise malgré les réserves émises par le collectif Giroderie au Vert, à combien évaluez-vous le nombre d'enfants qui seront inscrits dans les crèches à capacité limitée? Et même question pour les écoles avoisinantes qui font déjà face à des problèmes pour accueillir correctement les enfants à la cantine avec parfois 3 services. Donc comment envisagez-vous de régler ces problèmes, d'accueillir les futurs enfants éventuellement du nouveau quartier de la Giroderie?
Alors, Madame la conseillère municipale, la ville de Rambouillet anticipe bien évidemment la croissance de ses besoins en matière de services publics et d'infrastructures au regard de son évolution démographique. Le pôle famille et la direction de l'urbanisme se rencontrent régulièrement pour estimer l'évolution des besoins nécessaires à nos concitoyens afin d'anticiper de potentielles évolutions de la carte scolaire en lien avec l'inspection de l'éducation nationale, bien entendu. S'agissant plus particulièrement de la petite enfance, nous avons inauguré 2 nouveaux équipements rue Sadi Carnot après la rénovation de la crèche Place de l'Europe à La Clairière. La commission Petite Enfance qui s'est réunie mardi dernier avait ainsi pu répondre à 76% des besoins en 2022. Ce taux est très élevé au regard des villes comparables à la nôtre. Les Rambolitains peuvent aussi s'appuyer sur la présence dans notre ville d'assistantes maternelles agréées par le département et par d'autres crèches privées. Les familles qui s'installeront dans les nouveaux logements de la ville pourront donc bénéficier de la compétence du service Petite Enfance du pôle famille. En ce qui concerne l'accueil dans les écoles, les logements dépendront bien des écoles du quartier de la Louvière, qui seront à même de les accueillir dans ces écoles, tout comme dans les équipements périscolaires. Avec l'éducation nationale, la ville a déjà géré plusieurs fluctuations importantes du nombre d'élèves sur ces écoles, sans difficulté particulière. Je précise à ce sujet que je défends auprès de l'État une croissance raisonnable, à l'inverse de ce qui nous est demandé actuellement, pour préserver l'équilibre de Rambouillet et ne pas surcharger les services en place en assurant la corrélation entre le développement de la ville et les services à la population, ainsi que le sujet des mobilités, bien entendu. Le travail actuel sur le PLU va d'ailleurs dans ce sens.
Je vous remercie de votre réponse, mais donc, à peu près à la louche, on imagine que ça ferait combien d'enfants en plus dans les...
On n'a pas.
On n'a aucune idée.
On n'a pas. On fait... alors, théoriquement, je crois que... Alors, c'est très moche. Je crois qu'on fait 0,30 par logement.
0,30 par logement.
Voilà. Mais enfants de tous âges.
Oui, oui, ben c'est ça.
Donc, il n'y a pas que les écoles. Il y a les crèches, il y a les maternelles, il y a les élémentaires, il y a les collèges, il y a les lycées et l'enseignement supérieur. Voilà.
Toute petite question. J'ai cru comprendre au niveau de l'État aujourd'hui qu'on réfléchissait sur des plans à 3 ans au niveau des évolutions scolaires, c'est-à-dire qu'on n'essayait plus de travailler sur l'année prochaine, combien il y aura d'enfants, qu'on doit enfermer de classe, et ainsi de suite, mais d'essayer d'avoir des plans avec une visibilité. Est-ce que vous avez ce type de demande qui a été formulée par l'État, ou est-ce que c'est quelque chose qui apparaît, ou est-ce que c'est simplement aujourd'hui dans les cartons et ce n'est pas mis en place? Je trouve que ce serait d'une bonne logique de savoir, sur une période assez longue, pour tout le monde, pour l'État et pour les communes, de voir les effectifs, comment ils se déroulent. Donc je voulais savoir ça, parce que j'ai eu ces informations-là, mais je ne sais pas si véritablement c'est mis en œuvre.
Alors, je vais laisser la parole à mon collègue, M. Dupressoir, mais pour le moment, c'est dans les cartons.
Je vous le confirme, ça vient de débuter et il y a aujourd'hui des réunions entre l'Éducation nationale et Mme l'inspectrice et les services du pôle famille et prochainement avec le service urbanisme jusqu'à des prévisions à 3 ans. On a commencé à en parler, M. Petitpré le sait, dès lors que des programmes sont vendus, on essaye par les promoteurs de savoir un petit peu quelle est la population pour anticiper ce genre de choses. Donc, je vous le confirme. C'est pour ça, d'ailleurs, que... on a une classe de disponible aujourd'hui sur l'ouvière maternelle et qu'on se la garde au chaud puisqu'on ne veut pas l'aménager ou quoi que ce soit, justement en prévision de la géroderie, comme vous le dites. Donc nous aussi, on travaille déjà sur le sujet. Mais je vous le confirme, c'est bien des plans à 3 ans qui commencent à être faits.
Avec tout ce que ça consiste derrière pour l'éducation nationale et tout le questionnement, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les enjeux de fermeture de classe, encore plus que d'ouverture, enfin d'ouverture également d'ailleurs, mais de fermeture de classe, sont très prégnants par rapport au manque d'enseignants. Et que là où on pouvait avoir une négociation et essayer de ralentir une fermeture, il nous a été signifié que pour la rentrée prochaine, les choses seraient un peu plus regardées en fonction du nombre d'enseignants que le ministère aurait à mettre face aux enfants.
Et je voudrais repréciser, si vous permettez, Madame le maire, que la natalité aujourd'hui est en baisse. Hier, j'étais à une réunion de tous les maires adjoints des Yvelines, maires adjoints à l'éducation, et on le constate dans toutes les villes. La plus catastrophique, je crois que c'est Montigny-le-Bretonneux, qui était une ville nouvelle, dont les loyers et l'immobilier a monté fortement, au prix au mètre carré, et qu'aujourd'hui, sur Montigny-le-Bretonneux, ils avaient 27 écoles, là où à Chatou, pour la même population, il n'y a que 16 écoles. Et il y a plus de 27 classes aujourd'hui non occupées sur Montigny-le-Bretonneux. Et on s'en rend compte un petit peu partout aujourd'hui, surtout dès lors que le prix de l'immobilier est assez important.
Ouais. Oui, alors là, je vais déborder, mais ça va rejoindre le comité d'agglomération. Je veux dire qu'il faut véritablement que sur le territoire, on ait des possibilités d'accueillir les jeunes couples avec des enfants, de façon à ce qu'on ait des infrastructures cohérentes. Et c'est très important, c'est excessivement important. Il y a des programmes, a priori, de logements sociaux qui se développent, puisqu'on en voit Providence, Motte, la Giroderie en aura, je vois que la rue des Éveuses aussi apparaît. Donc il est évident que si on a ces projections-là, et si on fait le nécessaire, on est capable de mesurer au mieux et d'avoir le poids nécessaire vis-à-vis de l'éducation nationale par rapport à nos besoins.
Tout à fait. Question suivante.
Nous allons la retirer parce que vous y avez répondu en grande partie au début de conseil.
Très bien. Alors, pour, quand même, puisque vous aviez poser la question sur l'état de santé de l'accidenté, puisque c'était une question sur l'accident. L'état de santé de l'accidenté était rassurant dimanche matin. Voilà. Et sur le résultat des enquêtes, oui, vous aviez posé la question, mais sur le résultat des enquêtes, nous ne les avons pas. C'est uniquement judiciaire et policier. Bien, eh bien...
Excusez-moi, j'ai juste une petite demande. Pour la pulvérisation fin avril du côté de la Louvière avec les chenilles processionnaires, est-ce que c'est possible de prévenir les habitants de ces pulvérisations? Moi, j'habite là où il y a les arbres et tout. Je peux vous assurer que c'est assez impressionnant. Voilà, je ne connais pas de produit. Est-ce que ce n'est pas très toxique pour tous nos oiseaux? Parce qu'il y a quand même aussi pas mal de nichoirs, etc.
Non.
Ça,
non.
Merci. Et aussi autre chose, j'ai vu deux policiers avec deux vélos rouges. Je trouve ça génial. J'en avais parlé à M. Cintra, une police de proximité. En effet, je trouve que c'est une police à vélo. Est-ce qu'il y en aura plus que deux vélos bientôt?
Non, ils sont trois.
J'en ai vu que deux, moi.
Bah, ouais. Là, cet après-midi, ils étaient à trois vélos.
Et du coup, ça nous ramène évidemment à réduire les dépenses, parce que c'est des dépenses en moins en termes de carburant. Ils utilisent les vélos à la place d'utiliser les voitures. Et franchement, ça, c'est super. Je les ai vus à deux reprises. Mmh. Et à chaque fois, ils sont actifs. Enfin, je veux dire, ils sont occupés.
Ils sont très occupés. Oui, oui. Alors, ils sont, ils sont toujours actifs.
Mais à chaque fois, je les vois très actifs. Enfin, dans le sens, pas à pédaler, hein, je veux dire, en fonction. Mmh.
Voilà. Notre police municipale est très active. Alors, en effet, ils ont des patrouilles. Ils font des patrouilles à vélo, mais ils ne font pas toutes les patrouilles à vélo parce qu'ils font aussi partie du plan Vigipirate avec la police nationale. Et donc, à certains... moment, ils doivent se déplacer tout de même en véhicule.
Et vous envisagez d'en mettre un peu plus ou pas?
Non, parce qu'en fait, on a deux brigades. Donc, il faut qu'on ait une brigade motorisée et une brigade... C'est pour ça qu'il y a trois vélos.
Parce que je trouve que sur la Louvière, franchement, je ne sais pas pour les autres quartiers, hein, mais la Louvière, c'est super efficace.
Mais ils sont efficaces partout, sur tous les quartiers de la ville.
Ah ouais, parce que vraiment, ils se planquent, les gamins, dans les fourrés, machin. Oui, oui. Et mais je peux vous dire en vélo, ils ne peuvent plus se planquer. Quoi.
Cet après-midi, ils ont bien réussi.
Oui, mais régulièrement. Oui, oui. Mais enfin, non, mais je vous dis, la police de proximité, pour moi, à vélo, c'est le top. Voilà. Pour plusieurs raisons.
Eh bien, oui. Merci, voilà. On leur dira. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bonne nuit.